Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs et amis auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se passe dans l'offre d'information par ici, en découvrant ou en redécouvrant Altermidi, à la fois, nous allons le voir, site internet et magazine trimestriel. Pour nous en parler, je reçois son fondateur, directeur de la rédaction, Jean-Marie Dine. Altermidi se présente notamment ainsi. Altermidi est un média interrégional, Occitanie-Sud-PACA, libre et indépendant, délivrant une information citoyenne et participative. Voilà de quoi nous allécher, mais nous verrons plus tard comment ça se traduit. Jean-Marie Dine, pendant une douzaine d'années, journaliste à la Marseillaise de l'Héros du jour, avant de voler de vos propres ailes, vous connaissez donc bien Montpellier. Alors, quels sont les lieux qui ne figurent pas nécessairement sur les cartes postales que vous aimez particulièrement à Montpellier ?
Bonjour. Montpellier, j'aime les lieux où il y a de la diversité sociale. Donc, j'aime bien des quartiers comme le Plan Cabane, j'aime bien des quartiers comme les Beaux-Arts, voire la Paillade.
Voilà, il y a du brassage.
Voilà, où il y a du brassage.
Ouais. D'accord. Et à contrario, est-ce qu'il y a des aspects de Montpellier que vous aimez moins, que vous n'aimez pas ?
En fait, moi, ça fait 35 ans que je... Enfin, j'y ai habité 35 ans. Maintenant, je suis entre les Cévennes et Montpellier. Et donc, ça permet aussi d'avoir ce recul. Et ce que j'aime dans cette ville, bon, au-delà de ses atouts principaux, hein, c'est-à-dire le soleil, la mer, l'esprit méditerranéen, c'est une ville qui change en permanence. Et donc ce brassage cosmopolite qui est lié aussi à la ville estudiantine. Donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Et puis bon, là, c'est encore en train de changer.
Alors précisément, est-ce que, vous l'avez vécu moi aussi, ou observé, les mutations considérables qu'a connues la ville depuis 15-20 ans, voire plus, démographiques, urbanistiques, peut-être humaines, là, sur ces phénomènes, là, quel est votre regard, votre point de vue ?
Alors là, je dirais que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a cette dynamique de développement qui fait que c'est une ville qui vit. Après, c'est le sens que peut prendre ce développement et le rapport entre ce qu'on veut faire et ce qui se passe. Oui. Par exemple, une ville, elle a besoin de vivre économiquement. Donc, il y a quand même une politique qui est faite pour faire venir les gens, pour qu'il y ait de l'activité économique. Moi, j'ai habité 23 ans au cœur de Montpellier, à Saint-Roch. Ouais, Saint-Roch. Et... ce qui m'a un petit peu gêné, par contre, c'est ce rapport entre la vie, je dirais, commerçante et la réduction de l'espace public.
Ouais.
Alors, il y a une nécessité de faire vivre la ville, mais à un moment donné, il ne faut pas que le commerce prenne le pas sur les gens qui vivent.
C'est des formes de vie urbaine, de convivialité, de plaisir de la ville. Qui ne se réduit pas à la fonction commerciale qu'une ville est censée assurer. C'est
voilà,
ça, c'est à peu
c'est
près ça.
Et puis il y a un changement de population quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est un phénomène national. C'est-à-dire que les métropoles concentrent des gens qui viennent travailler, qui ont du pouvoir d'achat, et ceux qui ont plus de difficultés à trouver du travail ou qui sont dans des conditions sociales différentes trouvent de moins en moins leur place. Donc il y a cet équilibre qu'il faut quand même ménager. Parce qu'autrement, ça devient une ville inintéressante.
Oui, tout à fait. Sachant que, Montpellier, comme d'autres, la plupart des métropoles, il y a des pauvres, il y a beaucoup de pauvres à Montpellier, en termes de revenus de vie, ou d'être en deçà du revenu moyen. Et ça, ce sont des éléments de la vie de Montpellier qui sont moins apparents, me semble-t-il.
Ouais,
moins visibles.
Tout à fait. Et puis c'est une ville socialiste, donc c'est une ville de gauche. Il y a des choses, par exemple, comme le bouclier social, la question des loyers qui sont...
très élevés, oui.
Mais aussi, il y a une dimension où on bloque les loyers. Là, la
oui,
ville
oui,
a
là,
pris
oui,
des charges.
Oui, bien sûr.
C'est pareil pour le prix de l'eau. Donc il y a des choses qui sont faites, et puis il y a d'autres choses qui sont dans l'autre sens. Mais je crois que c'est difficile aujourd'hui pour une grosse municipalité qui se dit de gauche de s'affirmer en tant que telle dans un monde globalement archi-capitaliste.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut pas basculer. Oui, mais en même temps,
Montpellier n'échappe pas au contexte dans lequel social, politique, économique, dans lequel elle se situe, bien
ouais,
sûr.
Ouais. Et alors, par exemple, il y a des choses quand même qui sont toujours dans cette dynamique de changement et de la prise de risque, comme le nouveau plan de circulation. Moi, je trouve que c'est assez courageux, c'est-à-dire que ça se projette dans l'avenir. Politiquement, c'est pas forcément payant.
Ah, ça ne suscite pas d'enthousiasme généralisé, mais bon. Donc l'idée, c'est d'avoir du recul par rapport à ce genre de politique publique, bon, et de dépasser ce qu'on peut comprendre, les agacements ou les exaspérations que ça engendre. C'est ça l'idée.
Bah, c'est courageux d'agir au-delà du calendrier politique, je dirais, parce qu'il faut bien qu'on change.
Bien sûr.
Et le changement, c'est toujours aussi des efforts de réadaptation, etc. Après, comment on le fait? Et comment aussi la population le vit? Parce que une ville, c'est pas que les politiques qui décident.
Bien sûr.
Donc moi, je peux comprendre quand je suis aussi dans les embouteillages, j'en peux plus, qu'il faut partir à gauche quand on veut aller à droite. Enfin bon, c'est un vrai délire au niveau circulation. Je peux comprendre l'exaspération, mais il faut arriver à se projeter dans l'avenir. Mais il y a des trucs aussi qui m'apparaissent. C'est par exemple, bon, les gens qui sont en vélo sont rois. Ils sont valorisés quelque part comme des héros de la ville.
Oui, tout à fait.
Et ils se comportent comme des rois. C'est-à-dire qu'ils grillent les feux, ils sont relativement agressifs vis-à-vis des automobilistes. Ça peut être réciproque, hein. Mais il faut trouver un équilibre dans tout ça.
C'est-à-dire que le civisme qu'on attend des automobilistes, on peut aussi de l'attendre des cyclistes. Oui. D'accord. Et alors quand vous recevez des amis ou de parents de passage qui ne connaissent pas ou peu Montpellier, qu'est-ce que vous leur dites de la ville? Qu'est-ce que vous les incitez à découvrir? Voilà, comment, sans être rémunéré par l'Office du tourisme, comment vous êtes un peu l'ambassadeur de Montpellier, celui qui donne envie de découvrir la ville et peut-être d'y séjourner?
Moi, j'aime beaucoup la culture. Et donc, comme c'est quand même une ville qui a une offre culturelle très diversifiée, qui a aussi évolué, hein, et qui est encore en train d'évoluer, on va souvent aller voir des expos, des spectacles vivants au théâtre, à la danse.
C'est ça.
Et ça, on a quand même ici une qualité de l'offre par rapport à d'autres villes du même type qui est quand même formidable.
Très bien. Alors, merci là, de ce regard sur Montpellier. Revenons-en à l'intermidi. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans une aventure, je pense que le mot s'impose, avec le lancement de ce double média, la passion pour le journalisme, l'analyse de la situation et des carences de l'offre d'information? Voilà, quels ont été les éléments fondateurs de la création d'Altermédia?
Il y a ce que vous avez cité, puis je rajouterai un petit brin de folie parce que lancer un média aujourd'hui,
c'est pas conseillé dans les écoles de commerce en tout cas.
Ça paraît relativement suicidaire, mais il y a en fait le fait de, et je suis pas tout seul, on est un collectif de journalistes qui a évolué depuis, qui s'est diversifié, puis on a d'autres contributeurs, on aura l'occasion d'en parler, mais l'idée c'était de redéfinir un petit peu la façon dont on pratique notre métier, qu'on a pratiqué pour une partie d'entre nous dans un journal d'opinion que vous avez cité, qui est la Marseillaise. Donc on avait une expérience quand même de politique régionale, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cette expérience une fois qu'on a quitté ce journal? Comment est-ce qu'on peut valoriser cette expérience politique sans reconduire la même chose avec aussi ses travers? Donc on s'est dit, la meilleure façon de le faire, c'est d'ouvrir le média à la société civile. Et donc de...
C'est-à-dire de sortir au moins pour partie d'une espèce de confort, hein, d'un univers politique défini, normé, à une pratique journalistique et un traitement journalistique plus ouvert, plus diversifié. On peut le résumer comme ça sans être...
Oui, alors il y a cet aspect, c'est-à-dire que, en fait, en tant que journaliste, souvent, bon, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des journalistes aujourd'hui, de la même façon et peut-être au même niveau que la critique vis-à-vis du politique. Ouais. Donc il y a à s'interroger quand même là-dessus. Ouais. Donc on s'est dit comment travailler sur notre métier, mais on s'est dit aussi on est dépendant de la structure médiatique qui nous emploie, donc bien il sûr. Fallait créer une autre structure, et sur les fondements de cette création ne pas rester sur le piédestal journalistique en ouais. disant nous on est les journalistes, on sait comment il faut faire, on va faire ça, mais vraiment travailler sur un schéma d'ouverture avec les acteurs du territoire sur lequel on travaille, et entre autres, c'était PACA et Occitanie.
D'accord. Donc cette analyse, en définitive, ce regard que collectivement vous portiez sur la manière dont le journalisme se pratique, et les incidences, bien sûr, que ça a sur le traitement de l'info, ça a été, je dirais, le point d'appui de la réflexion sur la création qui a conduit à la création d'Alter Midi.
Oui. Tout à fait. La question de comment on pratique notre métier, c'est-à-dire la mise en cause de notre pratique journalistique et aussi de la structure qui l'encadre.
Oui.
D'où la volonté de créer aussi une structure qui soit ouverte et qui puisse accueillir des contributeurs qui sont des acteurs de nos territoires, mais qui ne sont pas forcément des journalistes.
Donc, c'est pas être seulement journaliste, mais être éditeur, en définitive. C'est
tout à fait.
Être éditeur avec la responsabilité ou les difficultés que cette responsabilité engendre. Oui. Alors, vous avez évoqué les questions de concentration. Bon, cette problématique, me semble, se pose à Montpellier. Il y a un groupe, la Dépêche du Midi, donc, qui contrôle Midi Libre, qui contrôle via Occitanie, qui contrôle une part importante, quoique minoritaire, du capital de la Gazette, c'est-à-dire qui a un pied quand même dans 3 des principaux médias que les Montpellierains peuvent utiliser. Est-ce que là aussi, cet état de fait a constitué un élément d'appui ou un signal ou une alerte qui a été aussi un des éléments constitutifs là, du démarrage d'Alter Média?
Tout à fait. Cette problématique de la concentration qu'on rencontre au niveau national, on la retrouve au niveau régional. Et ça participe d'un processus qui met en danger, je dirais, la fonction même du journaliste dans la société démocratique. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est un journaliste ? Finalement, un journaliste, c'est quelqu'un qui est censé être un intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir. À partir du moment où on ne fait plus la distinction entre le pouvoir médiatique et le pouvoir politique ou économique, il y a une vraie problématique démocratique qui se pose, d'autant plus que on est là dans ces dernières années, le Covid, aujourd'hui la guerre d'Ukraine, dans un système où on le voit de plus en plus, tous les médias parlent de la même chose tout le temps, et il n'y a pas de diversité de l'information. Donc il y a un appauvrissement de l'information. Et face à ça, il y a une demande des citoyens, à la fois un rejet de cet système de propagande. Parce qu'on parle de la propagande de Poutine, mais la propagande dans les pays démocratiques est tout aussi forte.
Oui, il n'y a pas des formes plus douces, mais...
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a une émergence de nouveaux médias indépendants qui n'arrivent pas à vivre. Hein. Bon, ça, c'est notre cas aussi. Mais c'est une nécessité démocratique et nous, on s'inscrit avec notre idée de départ, notre singularité dans un mouvement qui, j'espère, va régénérer cette fonction de la presse dans la démocratie.
C'est ça. Donc une espèce de réactivation, de relance, de redécouverte peut-être. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la fatigue informationnelle, des gens qui décrochent, notamment parce qu'ils croulent sur beaucoup d'informations uniformes et souvent à tonalité négative, et donc ils manquent d'air. Alors, autre caractéristique d'Alter Média, une structure qui est dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Alors, ce choix-là, il résulte de quoi ? Est-ce que c'est la solution qui était la plus simple pour traduire l'esprit, je dirais, coopératif qui a présidé à la création d'Alter Midi, ou ça répondait aussi à d'autres ambitions que vous portez ?
Bah, le fait de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, c'est aussi le rapport avec la société civile. C'est le fait d'être dans une dynamique qui n'est pas spéculative. Bon, ouais. Aujourd'hui, on aurait du mal à spéculer sur Altermidi, mais dans l'esprit, dans les bases, c'est ça. Et puis, l'économie sociale et solidaire, elle est omniprésente, en fait, dans nos vies. On en parle peu, on le réalise peu, et c'est un système où il y a une multitude d'acteurs. Il n'y en a pas énormément dans la presse. Il y a Alter Économique. C'est un modèle, d'ailleurs, qui est national, mais qui fonctionne bien, et pour nous c'est quand même une certaine référence. On ne veut pas faire la même chose, hein, puisqu'on bien travaille sûr. Sur l'échelle régionale, mais il y a Reporter qui fait un super boulot, et je parle des gens qui ont une certaine notoriété.
Oui, qui ont fait leur preuve.
Voilà. Il faut du temps, hein, il faut énormément de temps quand on travaille dans l'économie sociale et solidaire, notamment par rapport à la question de la gouvernance, puisque c'est une gouvernance qui est horizontale. Donc ça nécessite vraiment de se confronter à des problématiques de gestion qui sont réelles et des remises en question.
Bien sûr. Donc ça, un mot là-dessus, même si on parlera des sujets contenant sur les contenus, hein, sur l'offre d'info, cet aspect des choses, bon, la formation que vous avez suivie en matière de gestion... Comment ça se traduit? Eh bien, pour le dire plus simplement, là, quelles sont les ressources financières d'Altermidi actuellement? C'est pour même dire un mot et inviter les gens à vous rejoindre.
Les ressources financières d'Altermidi, donc on réfléchit, et ce modèle il est encore à construire, il va prendre du temps, mais on réfléchit à la nécessité de la solidité de notre modèle économique. Parce que l'idée c'est d'essayer de faire quelque chose qui est aussi propre à l'économie sociale et solidaire, de créer une structure de médias qui pourrait être transmissible. Oui. Quand on est dans l'économie sociale et solidaire, on n'est pas dans « c'est mon bébé ». Oui. On est dans une dimension de projet où on peut s'associer, où ça peut grandir, et c'est ça l'intérêt, justement. Mmh. Donc, le modèle économique qu'on essaie de construire, bon, on a fait une première réflexion sur la question est-ce qu'on accueille ou pas de la publicité,
oui.
Et on a pris le parti de prendre de la publicité. Alors peut-être ça vient contrairement à beaucoup de médias indépendants qui disent on est indépendant parce qu'on n'a pas de publicité. C'est vrai qu'il faut gérer ce rapport avec les annonceurs.
Y compris en étant sélectif
En étant sélectif.
Est-ce que vous êtes arrivé d'écarter des offres?
On n'en a pas eu l'occasion, mais je pense que bon, si ça se présentait, je pense que...
Il y a un problème, je dirais, de fond, quoi. Hein,
oui,
discordance entre ce que vous voulez être, ce que vous êtes, et le positionnement, l'offre, le produit ou les pratiques de l'entreprise éventuellement candidate à l'achat d'espace publicitaire.
Ça s'est pas encore produit. S'il y avait des entreprises du CAC 40 qui voulaient nous acheter de la publicité, je pense que ça serait l'occasion d'un débat au sein de notre rédaction qui serait nourri. Ouais. Parce que quand on regarde l'histoire de la presse régionale, on peut pas, si on veut s'inscrire dans le temps. Ça ne veut pas dire rester au Rennes tout le temps, ça veut dire, hein, comme je l'ai dit, créer un projet qui va vivre après nous.
C'est un mouvement, une trajectoire. Oui.
Voilà. D'une part, on est en prise avec les collectivités territoriales, c'est inévitable, c'est historique. Et d'autre part, le rapport aux annonceurs également, d'autant plus dans un contexte où la presse elle-même, c'est-à-dire on parlait des mass médias, elles-mêmes sont dans une problématique économique par rapport aux GAFAM. Donc il faut être réaliste d'un point de vue économique.
On peut penser qu'un certain nombre de quotidiens régionaux, pas nécessairement ceux qui sont à notre portée, vont disparaître du paysage, parce qu'il y a des mouvements en cours qui sont loin d'être finis, qui peuvent être ravageurs. Ça, oui, bien sûr.
Tout à fait. C'est-à-dire que la PQR, elle tient encore sur des acquis. Mais le modèle est fini. Ouais. D'où cette importance de renouveau. Et donc, on participe de ça et on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice avec des singularités qui sont les choix qu'on fait, mais aussi qui sont des choix qu'on fait avec les personnes qui veulent contribuer au projet.
C'est ça. Alors, les particuliers, les citoyens qui veulent contribuer au projet, pour reprendre vos mots, comment ça se passe? Par quelle voie? Abonnement, contribution, soutien, don
Alors, je dois dire qu'on est, assez mauvais sur cette question-là en termes de promotion et de...
Le moment.
Mais oui. Mais on est mauvais parce qu'en fait, on est tellement dans, notre travail rédactionnel qu'on a du mal à sortir la tête du guidon. Mais là, ça fait 3 ans que le projet a été lancé. Et effectivement, les questions se posent parce qu'on est encore bénévole. Certains d'entre nous travaillent à plein temps sur ce projet. Et donc, effectivement, il faut qu'on fasse parler de nous. Il faut que les gens nous aident aussi, ceux qui sont en accord avec notre démarche. Donc, ils peuvent évidemment s'abonner. Mais ça peut pas forcément aussi que des aides financières. Ça peut être des aides, des contributions actives. Par exemple, on a besoin de renforts au niveau de notre système informatique. On a besoin de gens qui sont en capacité de travailler avec nous sur la réflexion du projet. On a besoin aussi de contributeurs qui ont des choses à nous dire, qui ont envie de dire des choses, qui proposent des alternatives à ce modèle qui va dans le mur, et ça dans tous les domaines, hein, parce qu'on ne se situe pas dans la presse spécialisée. On ne se situe pas non plus dans une optique de niche, mais plutôt dans un environnement généraliste.
C'est ça. Alors, on en vient à la ligne éditoriale. Oui, donc, il y a ce parti pris donc, d'avoir des types d'infos, des rubriques très diverses, notamment avec la présence pas seulement d'infos locales ou régionales, mais aussi d'infos nationales ou internationales, sélectionnées, je suppose. Alors, ce choix-là, là, donc, c'est-à-dire d'ouvrir des portes vers des types d'infos... très divers et géographiquement multiples. Ça aussi, c'est un élément, je dirais, qui caractérise le projet éditorial.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre cadre de référence. En fait, notre cadre de référence, c'est la valorisation de l'information, d'une part, et d'autre part, sur le plan politique, c'est de travailler à un rapprochement entre les citoyens et leurs élus. Donc, sur le premier volet de la valorisation de l'information régionale, la question c'est comment on s'y prend et donc qu'est-ce qui fait qu'on peut valoriser l'info. Et donc on réfléchit sur comment aujourd'hui les gens consomment l'information. Il y a une multitude de sources.
Oui, alors je vous coupe un chiffre. En moyenne, 8 sources d'infos par jour pour les gens. Quoi. Donc 8 sources d'infos, on voit lesquelles, on voit les grands médias, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est bien cette démultiplication de l'offre avec les effets positifs, mais aussi avec des effets négatifs qu'elle produit, sur laquelle vous êtes interrogé.
Alors oui, notamment le paradoxe, c'est qu'on a une multiplication des sources et qu'en fait les gens sont saturés et finalement sont désinformés. Parce qu'il faut distinguer, je pense, le fait d'être au courant et le fait d'être informé.
Oui.
Les gens, aujourd'hui, éprouvent surtout le besoin d'être au courant. Oui. Être informé, c'est autre chose. Et c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Parce que
être au courant, c'est version caricaturale, l'alerte que je reçois sur mon smartphone, 3 lignes.
Donc, le rapport à l'info, nous on produit de l'info. En tant que journaliste, on accueille des contributions d'infos, ce qui fait qu'il y a une diversité d'informations. On peut reprendre des informations qui ont déjà été publiées en les sélectionnant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... Comme ça pouvait l'être à une certaine époque, et je l'ai connu. C'est-à-dire que je suis le journaliste, je signe mon papier avec le sentiment qu'on a fait son œuvre. On n'est plus, ça c'est fini. Aujourd'hui, il faut arriver à donner les éléments d'information, à les synthétiser, à la limite, quand on ne la produit pas, pour que les gens puissent avoir un peu plus de moyens de se forger leur propre opinion, et pas simplement de suivre les grands flux.
D'accord. Alors, il y a aussi le choix du territoire, de la zone que vous couvrez. Un mot là-dessus, en gros, un pied à Montpellier, un pied à Marseille et dans leurs zones respectives. Là aussi, de quelle logique ça provient ?
Ça provient d'un état de fait qu'au départ, on était un collectif avec assez éclaté sur le territoire des deux régions sud de PACA et Occitanie, avec des journalistes à Marseille, à Aix, à Avignon, à Toulouse, dans l'arrière-pays, à Montpellier. Donc il y a cet état de fait. Et puis il y a l'idée aussi que dépasser les frontières administratives, ça a un intérêt en soi.
C'est-à-dire de décloisonner là aussi.
Oui, tout à fait. quand, si on est journaliste à Montpellier, on est dans une bulle médiatique. Oui. Les journalistes se connaissent, ils connaissent les interlocuteurs économiques, politiques, etc. Et donc le débat se fait à l'intérieur de la bulle.
Ouais, presque un entre-soi. Oui.
Et un même sujet, bon, je sais pas, je pense la régie de l'eau ou les problématiques d'eau, selon s'il est traité à Avignon, Marseille ou à Montpellier, présente les mêmes caractéristiques. Mais si on est dans la bulle de Montpellier, on va pas forcément aller regarder comment ça se passe ailleurs. Comment des collectifs se sont battus, même s'ils se sont plantés, quelles expériences ils en tirent. Et donc, le fait de traverser les frontières, ça offre déjà une diversité de l'information et de situation. Des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Et puis, un autre aspect aussi qui peut caractériser notre démarche vis-à-vis d'un organe de presse régional, c'est justement cette distanciation vis-à-vis du périmètre de notre action. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, montpelliérain, mais on est aussi méditerranéen, on est aussi français, on est aussi européen, on est aussi citoyen du monde. Donc c'est pas parce qu'on habite à Montpellier que tout ce qui va faire qu'on va se forger notre opinion ou qui va motiver notre action relève simplement d'une dimension. Donc on a cette approche là d'élargissement.
D'accord. Et du coup d'ouverture vers la Méditerranée, si j'ai bien compris, du même coup. Hein,
la Méditerranée, quand même, voilà, par rapport à nos territoires et par rapport au nombre de gens qui habitent ici et qui ont des racines ou des origines ou un lien avec la Méditerranée, c'est énorme. Donc ça peut aussi toucher, vous parliez de l'international, effectivement. Moi, je trouve que la façon dont la presse française traite l'info internationale est très pauvre. Il suffit de sortir de France pour s'en rendre compte. Et dans des pays qui ne sont pas forcément démocratiques. D'ailleurs, on a ici un rapport à l'information internationale qui est très lié à l'État.
Oui.
Donc, quand on parle de l'info méditerranéenne, on essaie de voir ce qui se passe. Bon, on n'a pas ni les moyens ni l'ambition d'approfondir, bien qu'on soit en partenariat avec un média comme Madeneia Info qui lui a approfondi. Donc on travaille aussi en partenariat avec d'autres médias qui permettent d'enrichir aussi ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut parler de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, en Tunisie, et ça fait écho avec ce qu'on peut vivre ici dans nos territoires.
Alors Altermédia, c'est aussi une publication trimestrielle, Altermédia Mag, diffusée dans les kiosques et très principalement consacrée à un thème par numéro, traité de manière copieuse et fouillée. Comme jeunes et politiques, culture non essentielle avec un point d'interrogation, air marine à protéger, et le numéro 6 qui vient de paraître, consacré au handicap. Alors quel est l'objectif de ce magazine et en quoi, comme on peut l'imaginer, il complète ce que propose le site internet?
Le site altermedia.org, on est plus proche de l'actu, on va dire, l'actu plus ou moins chaude. Plus ou moins, parce qu'on ne court pas non plus, on ne cherche pas à courir. Ouais. Et le MAG va approfondir un peu plus les choses, va donner plus de place aux contributeurs en termes de possibilités d'expression et puis de réflexion croisée. Par exemple, là, sur le dernier numéro, qui est très thématisé autour de la question du handicap, on a choisi cette question... qui est une grosse question, parce qu'elle nous paraissait une vraie question de la citoyenneté. Parce que quelque part, bon, qu'est-ce que c'est qu'être une personne handicapée? C'est quoi la définition? Est-ce que c'est uniquement la définition par rapport à nos sens qui peut être défaillant? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est... Donc ça nous a chamboulé un peu les ménages, on a réfléchi un peu dans tous les sens, et encore une fois, on a fait appel à notre expérience journalistique, mais aussi à des contributeurs qui sont des contributeurs réguliers de la société civile, et puis des témoins. Et donc, bon, le MAG, il est structuré avec des grands volets, comme je disais, généraliste, mais on cible. On a des champs qui reviennent à chaque fois, comme la question de l'université, dans ses dimensions multiples, hein, politique, recherche, étudiants. On a des questions comme l'ESS, comme les collectivités. Donc dans chaque volet, on fait intervenir cette problématique du handicap. Par exemple, sur les collectivités, je prends l'exemple de la maison de l'autonomie. À l'Hérault, on a rencontré le directeur qui nous dit, bon, on est en train de travailler sur la réduction des délais.
Ah, le traitement des dossiers à la maison, départementale des personnes handicapées, oui, d'accord.
Donc c'est donner la voix aussi aux collectivités, c'est dans leur vraie problématique. Et par exemple, cette personne, elle dit, alors autant on peut comprendre si on se situe du point de vue des personnes en situation de handicap, le ras-le-bol, la galère, et ça c'est exprimé dans le numéro. Mais il faut aussi comprendre ceux qui sont en responsabilité, et il nous dit par exemple, il faut que les gens comprennent qu'ils n'envoient pas leur dossier, parce qu'on est dans un système de saturation totale, qui se renseignent avant d'envoyer leur dossier, parce que ça bloque tout le processus.
D'accord. Alors, très bien. Bon, donc je renvoie les auditeurs et auditrices vers la lecture donc, d'un thé midi mag. Et dernière question, brève réponse, comment peut-on aider Alter Midi? Quelle forme ça peut prendre? Donc, l'accès au site, l'information que ça donne par exemple, ou d'autres formes de contribution au devenir d'Alter Midi?
Peut-être le découvrir, le faire connaître, s'abonner, participer.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie Dini.
Merci à vous.
Et bon vent. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.